Donc cette fête de la science se consacre aux émotions et nous allons cet après-midi parler émotions et apprentissage, plus précisément quel lien entre les émotions et l'apprentissage. Et donc pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir deux invités avec moi. Célia maintenant, bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc c'est le plaisir de la radio, c'est qu'il faut parler dans un micro. Je pense qu'il est allumé celui-ci.
Bon, je vais prendre celui-là alors.
Voilà. Donc, bonjour Célia maintenant.
Bonjour, merci.
Donc vous êtes maître de conférence en psychologie du développement à l'université de Tours, est-ce bien ça?
Oui, tout à fait.
Voilà, et à côté de vous, il y a Élodie Tricard. Bonjour.
Bonjour à tous.
Et vous êtes maître de conférence en psychologie à l'université d'Orléans.
C'est ça.
Alors mesdames, peut-être tout d'abord, une petite mise en contexte. Est-ce qu'on peut rappeler, c'est quoi une émotion?
Oui, alors... Pour essayer d'être le plus synthétique possible, on va essayer de faire quelque chose de clair. L'idée, c'est que les émotions, c'est quelque chose qui va débuter rapidement après un événement qu'on va être amené à rencontrer dans la vie quotidienne. Voilà, on croise quelqu'un qu'on connaît et qu'on apprécie, par exemple, ça va déclencher une émotion très rapidement. De la même façon, on considère que les émotions sont une réaction assez forte face à cet événement qu'on a rencontré. Et puis, c'est quelque chose qui va déclencher chez nous plusieurs types de réactions. Des réactions au niveau physiologique, donc ça va être les battements du cœur, par exemple, pour prendre juste un exemple. Ça va être des réactions cognitives. On va se dire, ah oui, c'est telle personne, je l'aime bien, et donc je ressens telle émotion. Et puis, des réactions qu'on va appeler plutôt comportementales, qui vont être des changements au niveau de l'expression du visage. Donc voilà, les émotions, elles vont avoir ces définitions-là. Et puis, elles vont être très, très variées. On va avoir plusieurs émotions qu'on va appeler des émotions de base, la joie, la tristesse, la colère, entre autres.
Et alors, il y a quand même plusieurs types aussi d'émotions. Donc, on entend plusieurs mots. Émotions, sentiments, affects, humeur. C'est quoi la différence entre toutes ces notions?
Oui, alors justement, la différence, elle est au niveau de ses caractéristiques. Par exemple, l'humeur, on va considérer que ce n'est pas forcément quelque chose qui va se déclencher par rapport à un événement extérieur. Voilà, ça va être quelque chose qui va être très très long dans la durée et puis qui ne va pas être en réaction à un événement particulier, par exemple. De la même façon, l'affect, en fait, c'est un terme qu'on utilise pour regrouper toutes les réactions. Humeur, émotion, sentiment, justement, on le regroupe sous ce terme d'affect qui est en fait très englobant. Et puis les sentiments qui vont souvent avoir une intensité qui peut être un peu moins élevée que les émotions. Donc voilà, les différences se situent sur ces composantes que je vous disais, sur ces éléments que je vous donnais tout à l'heure, la rapidité de déclenchement, la réaction à un objet extérieur et puis les différentes réponses que ça peut entraîner.
Et alors quand on est un être humain, ou un animal, mais d'ailleurs nous sommes aussi des animaux, à quoi ça sert d'avoir des émotions?
Alors c'était la grande question, on a souvent pensé que les émotions étaient un frein en fait à tous les processus cognitifs, donc on s'est dit pourquoi dans ces cas-là est-ce qu'on a encore des émotions à l'heure actuelle? Et certains auteurs, donc on a Plotchik par exemple qui a travaillé sur ces éléments-là et qui a souligné une fonction motivationnelle des émotions. C'est-à-dire qu'elles vont permettre de déclencher un comportement qui va, il y a très longtemps, quand la survie de l'espèce était en jeu, mais qui aujourd'hui perdure malgré tout sur des dimensions un peu plus faibles, vont permettre de mettre en place des comportements qui vont être nécessaires à la survie de l'espèce. Par exemple, voire engendrer un comportement de fuite. Je pense que c'est l'exemple qui parle le plus. Mais la tristesse aussi, il l'a associée à la fonction de réintégration dans un groupe. C'est-à-dire que l'objectif, quand on est triste, c'est d'avoir un groupe social qui va venir se rapprocher un peu de nous pour apporter un soutien. Donc il a associé comme ça les différents états émotionnels à des fonctions qui permettent à l'individu de maintenir une qualité de vie plutôt positive.
Et alors ces fameuses émotions à quoi ça sert de s'y intéresser pour mieux apprendre? Est-ce qu'il y a un lien quelconque?
Alors effectivement,
Moi, je peux vous parler un petit peu plus de cet aspect-là. Peut-être pour commencer, au tout début de la vie, en fait, on n'y pense pas forcément, mais dès le plus jeune âge, dès la naissance quasiment, le bébé va être amené à apprendre grâce à ses émotions. Et c'est vraiment en se basant sur les émotions qu'il va pouvoir déchiffrer très tôt sur le visage et puis dans les intonations de voix des personnes qui l'entourent. Alors, généralement les adultes, mais aussi les autres enfants. Il peut détecter ça chez tous les autres êtres humains qui l'entourent. Donc, Henri Vallon, par exemple, parlait de ce phénomène d'apprentissage par les émotions. Lui, il parlait de contagion émotionnelle. Et c'est vraiment une des premières étapes où l'enfant va utiliser les émotions qu'il voit chez l'autre pour apprendre. Alors il va apprendre en adaptant son comportement. Il va être capable, par exemple, de décider s'il va justement, comme Élodie le disait, plutôt avoir un comportement d'approche ou un comportement de fuite par rapport à un objet, par rapport à un objet qu'il ne connaît pas. Ça peut être un nouveau jouet. Des chercheurs ont montré ça déjà il y a très longtemps. Si on demande aux adultes qui sont présents dans la pièce lors de la découverte de ce nouveau jouet par l'enfant, de jouer plutôt une émotion très positive, de la joie, de l'intérêt, il va avoir un comportement d'approche du jouet. À l'inverse, si les émotions qu'il voit sur le visage et dans les réactions des adultes sont négatives, de peur ou de tristesse, il va avoir lui aussi peur de cet objet. De même, ça va être ce qui va permettre très tôt de ne pas mettre en danger directement les enfants. Ils vont se baser sur les réactions de peur ou de colère quand ils s'approchent de quelque chose de très chaud ou quand ils s'approchent du vide. Ils vont pas avoir besoin d'expérimenter directement cette situation de danger. Ils vont pouvoir se baser sur la réaction chez l'adulte pour apprendre que telle ou telle situation est dangereuse et ne plus avoir ce comportement qui pourrait le mettre en danger. Et puis c'est une façon aussi d'apprendre les normes sociales. Il va toujours se faire ce qu'on appelle la référenciation sociale, se baser sur les émotions, là encore, de son entourage pour juger si le comportement qu'il est en train de mettre en place est adapté ou pas. Donc il ne va pas seulement se contenter d'imiter ce que font les personnes de son entourage, mais il va vraiment, quand il amorce un comportement, regarder, il regarde beaucoup autour d'eux, hein, pour voir si la réaction au niveau émotionnel, elle est plutôt positive ou plutôt négative et réagir en conséquence. Et puis je laisse peut-être la parole à Élodie pour tout ce qui va être dans la suite du développement par rapport au rôle des émotions dans les apprentissages.
Oui, alors avec plaisir. La première chose peut-être à pas oublier, c'est que l'école, c'est un lieu où les émotions occupent une grande place. C'est un lieu quand même où on va mettre l'élève en situation de déstabilisation, c'est comme ça qu'on appelle ça. En tout cas, on va le mettre face à une situation pour laquelle il ne connaît pas la réponse et qui peut être un peu perturbante et qui va générer en fait des émotions. Donc c'est un lieu où la régulation des émotions, la gestion des émotions occupe une grande place. Et on s'est aperçu qu'effectivement, les émotions étaient fortement associées à l'acquisition de connaissances, et là, à tous les âges de la vie. Alors, on a des exemples chez les adultes qui fonctionnent. Si on se souvient très très bien des moments très joyeux, on se souvient d'énormément de détails qui étaient présents, parfois même qu'est-ce qu'on portait à ce jour-là. Mais chez les élèves, c'est la même chose. Donc, il y a une importance à prendre en compte les facteurs émotionnels, déjà juste dans pour l'apprentissage général. Mais on s'est aperçu également que, par plusieurs petites études, que les émotions pouvaient avoir un rôle au moment de la compréhension de certains textes, par exemple. Donc si on donne un texte à un enfant qui va être associé à un contenu émotionnel, et ben dans ces cas-là, en fait, l'émotion avait plutôt un effet un peu délétère. C'est-à-dire qu'il allait gêner la compréhension du texte. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'effet de l'émotion, positive ou négative, n'est pas unilatéral, c'est pas toujours bien ou toujours pas bien. Il va falloir doser et puis apprendre à comprendre tout ça. Dans le cas de la compréhension de texte, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en fait, quand vous lisez du contenu émotionnel, vous vous intéressez beaucoup à ce contenu-là, même s'il n'est pas très intéressant pour comprendre vraiment l'histoire. Et donc, chez les élèves, ça va gêner la compréhension générale du texte. Un autre point, c'était les travaux qui ont porté sur l'effet des émotions de l'enseignant sur les apprentissages de l'élève ou la régulation des émotions des enfants. Et là aussi, il y a eu plusieurs petites expérimentations qui ont été faites et qui ont montré que la capacité de l'enseignant à prendre en compte les émotions des élèves était un atout vraiment important pour les aider à aller vers un meilleur apprentissage. Je ne sais pas, Célia, si tu avais d'autres... Il y a beaucoup de travaux qui ont porté sur l'apprentissage à l'école, mais voilà, ce qui me paraît intéressant, c'est surtout le fait que ce ne soit pas un effet toujours positif ou toujours négatif à souligner. En tout cas, dans les programmes scolaires, aujourd'hui, c'est quelque chose qui occupe une grande place. On travaille sur le développement de ses compétences émotionnelles et on s'est bien aperçu que c'était un facteur quand même à prendre largement en compte dans les apprentissages.
Ce qu'on peut peut-être rajouter, c'est le lien avec l'estime de soi. Moi, j'ai travaillé récemment sur les questions de décrochage scolaire et ce qu'on a pu... Alors, avec pour l'instant quelques difficultés pour mener la recherche avec la situation sanitaire actuelle, mais ce qu'on a pu commencer à apercevoir quand même, c'est qu'il y a un lien entre l'engagement dans les apprentissages scolaires, le contexte émotionnel, donc à favoriser de façon quand même plutôt positive, même si au niveau des contenus, tu fais bien de le préciser, si c'est très émotionnel, ça peut être un frein, mais si le contexte d'apprentissage est plutôt positif, ça a plutôt des effets positifs et en lien avec le fait de favoriser une estime de soi suffisamment élevée pour l'élève. Donc ça, ce sont des concepts qui sont assez liés et sur lesquels on commence à beaucoup travailler pour justement favoriser ces apprentissages, essayer de ne pas tomber dans ce cercle vicieux du décrochage scolaire en fait. Voilà ce que vous pouvez rajouter peut-être sur cet aspect-là.
Alors peut-être, moi j'ai déjà quelques questions avant de continuer cette intervention. Donc vous évoquiez au début de cette intervention l'idée que l'enfant interagit aussi avec son entourage. Donc ça suppose quand même un entourage positif, bien intentionné, solide. Enfin, solide. Donc ce qui se passe si l'enfant grandit dans un entourage défaillant, par exemple qui ne réagit pas quand il se met en danger, quel impact sur cet apprentissage des émotions ?
Là, on va rentrer dans tout ce qui concerne le développement. Déjà, le développement de la reconnaissance des émotions, de l'expression des émotions, qui va être peut-être freiné par un manque de ces échanges émotionnels chez les très jeunes enfants. Et puis, ce qui est un point aussi important à développer par rapport aux apprentissages, que ce soit chez les tout-petits ou chez les élèves par la suite, c'est cette notion de régulation émotionnelle. Et ça se construit effectivement très, très tôt. Et s'il y a des failles, comme vous évoquiez, les capacités de régulation émotionnelle de l'enfant pour la suite de sa vie peuvent être problématiques. Donc ça, c'est vrai que l'entourage, alors pas forcément que les parents, on parle souvent, alors on a parlé pendant des années que des mamans, hein. Après voilà, il y a les papas aussi, et puis pas seulement les parents, hein, tout l'entourage de l'enfant, toutes les personnes qui sont proches de l'enfant, effectivement vont avoir un rôle, notamment dans cet apprentissage de la régulation émotionnelle. On ne peut pas supprimer les émotions, mais on peut apprendre à les réguler. Et ça se fait dès le plus jeune âge. Et c'est, alors là, il y a cette notion d'imitation un petit peu, le fait d'avoir un modèle, de voir comment les proches réagissent à telle ou telle situation, qu'elle soit positive ou négative, mais plutôt négative, va apprendre à l'enfant comment il peut déjà avoir des réponses. Parce qu'au début, c'est de la co-régulation. L'enfant n'est pas capable de réguler tout seul. Et puis, grâce à une bonne co-régulation, il va pouvoir apprendre à le faire seul, par lui-même, alors avec des objets de transition, hein, ce qui va l'aider aussi beaucoup, hein, les doudous qu'on connaît bien, hein, sur ces questions-là, qui vont lui permettre progressivement de trouver ses propres stratégies de régulation émotionnelle pour pouvoir s'en sortir tout seul.
Voilà, donc, pardon, hein, j'insiste pour nos auditeurs ou peut-être pour les personnes en public qui ne sont pas familières de toutes ces notions. Mais alors, ça veut dire, par exemple, c'est un enfant qui n'a pas appris à reconnaître un danger, qui ne sait pas qu'on n'a pas besoin, par exemple, de hurler pour communiquer avec les autres. C'est-à-dire que ça va le poursuivre, entre guillemets, ces choses-là ?
Alors, le poursuivre, pas forcément, mais ça, parce qu'il y a toujours des possibilités. Enfin, après, les points de vue... Je laisserai donner ton point de vue aussi, Élodie, mais moi j'ai plutôt une vision du fait que oui, ça peut poser des problèmes, mais qui sont tout à fait possibles à rattraper, à combler. Ça ne va pas forcément le poursuivre toute sa vie, mais c'est une possibilité s'il n'y a pas d'amélioration, effectivement.
Oui, dans d'autres situations, l'enfant va pouvoir développer des compétences qui faisaient peut-être jusque-là un petit peu défaut, et heureusement. C'est quand même tout le principe de l'école, de se dire qu'on peut développer chez les élèves des compétences. Donc oui, c'est pas irrémédiable, c'est quand même le bon point. Mais effectivement, c'est des enfants qui vont, quand ils vont arriver à l'école notamment, peuvent avoir des difficultés d'intégration dans le groupe parce que justement, ils n'auront pas appris à réguler ou certains codes sociaux qui vont favoriser pour eux l'intégration et dans la classe et dans le groupe élève et l'interaction avec l'adulte. C'est notamment toutes les questions de gestion des frustrations qui peuvent être un petit peu plus compliqué, mais c'est des choses qui vont s'acquérir au fur et à mesure du développement. Donc voilà, il n'y a pas un côté irrémédiable sous prétexte que sur les premières années de vie, ça a été un petit peu compliqué, heureusement.
Très souvent, il y a le langage aussi qui va avoir un rôle très important dans le fait de pouvoir mieux exprimer autrement que par des pleurs, des cris. Et ça, effectivement, même si ce n'est pas favorisé dans le cercle familial, c'est favorisé par ailleurs. Donc, on va avoir cette possibilité de passer sur une autre façon d'exprimer et de gérer ses émotions.
Je vois qu'il y a une question dans le public, donc je vais amener le micro à madame.
Bonjour. Oui, je prie de m'excuser hein, d'interrompre, mais c'est parce que je pensais, quand vous dites que ce n'est pas irrémédiable, j'ai entendu parler, il y a depuis très longtemps, de ce qui s'est passé dans les orphelinats en Roumanie, etc., où là, ça a été vraiment irrémédiable.
Tout à fait.
Qu'il n'y ait pas un environnement satisfaisant
pour
éveiller les enfants qui sont malheureusement restés...
Qui en sont morts, pour certains. Hein. Oui, tout à fait.
Ça renvoie à Cyrulnik, peut-être. Voilà, et donc, alors pour toujours les gens qui ne sont pas spécialistes, dont je suis, est-ce que vous voudriez nous donner un exemple de contenu émotionnel ? C'est quoi un contenu émotionnel ?
Alors, est-ce que là, on reparle de ce que...
Quand on est en... Vous disiez...
Oui, sur la compréhension de texte. Tout simplement, en fait, on a associé... du vocabulaire à des émotions, par exemple les mots joie, rencontre, qui vont être associés justement à une émotion, pardon, à une émotion positive, notamment l'émotion de joie. Et donc on a associé comme ça des mots à des émotions spécifiques et on a créé des textes qui ont du sens, hein, mais on a mis au point des textes avec des valences émotionnelles, avec ses contenus, donc ses mots, en fait, tout simplement. Et on a essayé de les faire lire aux élèves. Et ce qu'on s'aperçoit, effectivement, c'est que quand il y a un contenu émotionnel qui est mobilisé, une situation très positive, Jean va aller voir ses amis pour une fête d'anniversaire, par exemple, ça renvoie à une émotion positive. Alors, sur des textes plus longs, ça a été mis au point, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, les élèves ont tendance à s'intéresser plutôt aux émotions qui sont dégagées que finalement à ce qu'on va appeler nous des inférences, donc essayer de trouver des informations, dégager des informations supplémentaires du texte qui permettent normalement la compréhension. Et donc à ce moment-là, on s'est aperçu que c'était plutôt un effet assez délétère sur la compréhension de texte, mais ça reste effectivement spécifique, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'émotions. Ça veut juste dire qu'il faut être conscient qu'elles ne sont pas toujours un levier et qu'il faut quand même le réfléchir un petit peu.
Ça peut faire brouillage.
Ça peut effectivement avoir... alors aujourd'hui, on essaye justement de comprendre dans quelle mesure ça fait brouillage ou pas. Il y a quelques recherches qui ont montré, qui ont commencé à montrer, donc c'est les recherches, notamment je pense à celle d'Isabelle Blanchette, qui ont montré que les émotions qui étaient finalement pertinentes pour la tâche, qui étaient associées au travail à réaliser, étaient des éléments facilitateurs. C'est-à-dire que si l'émotion qui est dans le texte ou qui est ressentie dans la situation, elle est intéressante pour la tâche à réaliser, et bien dans ces cas-là, c'est un vrai moteur. C'est un élément très positif pour réaliser l'activité. En revanche, si l'émotion n'est pas en lien direct avec la tâche à réaliser, dans ces cas-là, ça avait plutôt tendance effectivement à être un brouillage, ou en tout cas à faire diminuer un petit peu les performances.
Peut-être pour compléter un exemple encore plus simple et proche des élèves, je pensais tout à l'heure quand on disait quand je disais le contexte positif, ça favorise. Il faut effectivement que ça soit cohérent avec le contexte d'apprentissage aussi, parce que on a tous en tête des situations où on est accaparé par une émotion très positive, la perspective des vacances qui arrivent ou du week-end qui arrive. Les élèves, ça peut être vraiment la même chose. Le contexte, il peut être très positif, ils se réjouissent, donc ils sont très joyeux par rapport à cette perspective positive, mais là, pour le coup, ça peut effectivement gêner les apprentissages. Donc il faut qu'ils puissent réguler pas seulement les émotions négatives, mais aussi parfois des émotions positives qui peuvent être tout à fait bénéfiques pour eux, mais pas sur ce moment-là d'apprentissage.
Et alors, en fait de contexte d'apprentissage positif, mais en fait de contexte d'apprentissage négatif, on ait besoin d'aller très loin, hein, si on pense au Covid. Est-ce qu'on peut déjà supposer que ça a des effets négatifs sur les apprentissages ?
Oui.
Alors, oui. On a déjà commencé à avoir des recherches. Moi, je n'en ai pas mené directement, donc je vais vous dire par rapport à ce qui a pu être mené à côté. Là, effectivement, il y a eu beaucoup d'éléments qui sont remontés, qui ont montré qu'en fait, l'anxiété ressentie par les élèves durant cette période-là avait été un frein très très important pour les apprentissages. Hormis le fait qu'ils étaient déjà plus à l'école et qu'ils n'avaient plus la possibilité d'avoir le cadre qui favorise quand même largement l'apprentissage, l'anxiété générée par la situation avait été un vrai frein juste pour les apprentissages ou le développement des élèves à ce moment-là, le développement de compétences.
Ça peut être, ça semble évident, et puis ça peut être expliqué aussi par le fait que ça fait des informations supplémentaires en fait pour toute personne, hein, pour les adultes aussi. Ça fait des informations supplémentaires à traiter en plus des apprentissages. Ils ont en tête cette situation et donc forcément ça prend de la place, pour le dire simplement, qui n'est plus allouée, qui n'est plus disponible pour apprendre.
Le fameux temps de cerveau disponible, on le retrouve là aussi.
C'est un peu ça, oui. Un petit peu l'idée.
Et alors, en fait, de stratégie, justement, dévolue aux apprentissages, des stratégies de régulation émotionnelle, qu'est-ce que vous aimeriez nous en dire ?
Alors, effectivement, je peux peut-être commencer sur cette question-là, sur les stratégies qui ont été proposées. Alors, il y a beaucoup de travaux en sciences de l'éducation sur les stratégies de régulation émotionnelle, sur les stratégies pour apprendre. Et puis, en psychologie, il y a des collègues, Leroy et Grégoire, par exemple, qui ont essayé d'adapter, qui ont proposé une adaptation intéressante de ces stratégies aux situations vraiment des élèves en classe. Donc on peut citer quelques exemples. Effectivement, on va avoir une stratégie qui s'appelle la réévaluation cognitive ou le changement cognitif, qui va consister à essayer de réduire le décalage émotionnel entre une situation d'apprentissage qui, à court terme, n'est quand même pas très satisfaisante, pas très positive émotionnellement, contre des tentations qui sont plutôt connotées positivement, le fait d'aller jouer avec les copains, le fait de regarder la télévision, de jouer aux jeux vidéo. Et le problème, c'est qu'on va avoir tendance, et d'autant plus les enfants, à avoir une vision assez réduite du bénéfice subjectif des apprentissages parce qu'il est loin dans le temps. C'est compliqué. Plus c'est loin dans le temps, plus c'est compliqué de le voir comme quelque chose de positif et qui va servir entre guillemets à quelque chose pour l'élève. Alors que la satisfaction de l'envie d'aller jouer, ben, voilà, c'est beaucoup plus proche dans le temps. Donc il y a ce décalage et c'est ce décalage qu'on va essayer de réduire avec cette stratégie de réévaluation, alors qu'on appelle réévaluation cognitive, mais en fait c'est essayer de revaloriser l'apprentissage en lui-même. Donc essayer d'expliquer à quel point ça peut être utile, à quel point ça essayer de remotiver aussi. Il y a toujours cette notion de motivation qui est très liée. Donc par exemple pour des élèves, le fait de leur présenter les choses un petit peu différemment, en leur disant que tel apprentissage d'une liste de mots par exemple, c'est pas seulement pour évaluer la mémoire, mais c'est aussi une façon de voir si ils ont suffisamment de volonté pour pas se laisser distraire par des distracteurs qui seraient de la télé ou autre. Ça va favoriser les apprentissages, ils vont avoir plus de facilité à se concentrer et les performances de mémorisation sont meilleures.
Est-ce que ça revient aussi de dire, bon, c'est un vieux truc, mais d'apprentissage par le jeu, est-ce qu'on peut transformer en à peu près, enfin tout, je ne sais pas, mais transformer beaucoup de choses en tout cas en jeu?
Oui, tout à fait. Ouais. Il y a beaucoup de travaux sur ces questions, mais je vais peut-être te laisser.
Alors, vas-y, tu peux aussi.
Oui, il y a énormément de choses qui se développent par rapport à cet apprentissage par le jeu. Moi, je ne travaille pas directement là-dessus pour l'instant, mais c'est un projet qui m'intéresserait beaucoup. Le fait de pouvoir développer des apprentissages, alors à la fois scolaires, mais aussi tout ce qui va être en termes de compétences sociales. Ça va permettre de beaucoup favoriser certains apprentissages quand on met les enfants en situation de jeu. Alors on peut justement jouer sur est-ce qu'on est plutôt dans une situation de jeu compétitif ou une situation de jeu collaboratif. Donc ça va permettre d'aborder les relations sociales et les apprentissages sous des angles assez différents.
Et peut-être ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les enfants jouent déjà de toute façon naturellement, c'est pas pour rien. Outre les aspects sociaux, c'est un vrai moteur de développement pour eux, d'apprentissage. Et en fait, c'est aussi laisser du temps aux enfants pour jouer de façon libre. On a tendance à le voir beaucoup dans le domaine scolaire comme quelque chose de contrôlé par l'enseignant qui va mettre en place une situation très spécifique. Alors, c'est un outil intéressant, mais en fait, un autre outil intéressant, c'est juste de leur laisser et de leur mettre à disposition du matériel qui va leur permettre de jouer et qui va développer ce qu'on appelle des compétences psychosociales, donc à la fois des compétences d'inhibition, ne pas faire une action qu'on a envie de faire parce que c'est pas propice à ce moment-là, réguler des conflits, donc plutôt sur l'aspect social, ou interagir avec les camarades de façon positive, et puis sur de la régulation émotionnelle également, qui sont en jeu en fait, dans les situations de jeu justement. Donc voilà, c'est le jeu est un outil intéressant, mais en fait à tous les âges, et le jeu qu'on va appeler le jeu libre, c'est-à-dire régulé par les enfants, géré par les enfants, c'est quelque chose qu'on peut utiliser assez facilement, qu'on a tendance à oublier, mais qui marche très très bien.
Alors peut-être une autre question sur l'idée de, par exemple, d'un jeu où l'idée c'est de dire bon, ne pas tricher par exemple, ne pas s'énerver si je perds, de dire finalement de montrer à un enfant que c'est dans son intérêt de ne pas le faire. Plutôt que parce qu'il ne faut pas.
Oui, alors ça, les enfants vont l'apprendre de toute façon quand ils vont être amenés à jouer justement. Alors avec les parents, c'est un petit peu différent. Il y a une tolérance qui est différente. Entre les enfants, ils régulent très très différemment de ce qu'on va pouvoir faire nous en tant qu'adultes. C'est-à-dire que nous, on va laisser passer un peu plus facilement la frustration parce qu'on sait que c'est pas facile. Entre enfants, ils vont être amenés à beaucoup plus la réguler parce que leurs camarades vont de toute façon leur dire « bah si, c'est comme ça, le jeu il est comme ça, etc. » Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on observe des enfants jouer de façon complètement libre, ils mettent au point de toute façon des stratégies justes pour eux. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils sont tous d'accord pour mettre en place ces règles-là. Et que finalement, même si l'adulte se dit « bah normalement, ça ne se joue pas comme ça », à ce moment-là, c'est presque pas intéressant pour nous. Ce qui est intéressant, c'est de se dire « eux, ils ont réussi à créer quelque chose, à se mettre d'accord ». Et si les règles leur conviennent, et bien finalement, que nous, ça nous paraisse juste ou pas, que nous, on considère qu'il faille telle ou telle direction, telle ou telle émotion, bah finalement, c'est pas très très grave.
Oui.
Non, je suis tout à fait d'accord.
Et alors peut-être un cas concret d'un travail sur lequel vous planchez actuellement.
Alors peut-être pas celui sur lequel on travaille actuellement, enfin on pourra peut-être en parler après. Peut-être Élodie, si tu souhaites présenter une étude que tu avais faite sur justement les effets d'une situation qui induit du stress sur les performances des élèves.
Oui, du coup on est en plein dans le contexte puisqu'on était vraiment sur l'idée de l'apprentissage, alors là d'un raisonnement, de la mise en place de raisonnement chez les élèves en situation stressante. Donc voilà, ce qu'on s'était aperçu, c'est l'effet stressant des évaluations. C'est pas une très très grande surprise ça, mais on s'est aperçu que dans les cas de stress liés aux évaluations, on observait soit des diminutions des performances, soit certains élèves qui allaient réussir à maintenir une bonne performance, aussi bonne finalement que dans une situation non stressante, mais qui déployaient beaucoup plus d'attention. Ça leur demandait en fait un coût très très important pour réussir à maintenir cette performance. Et donc nous, on s'est intéressé à essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que certains élèves vont mettre en place ou essayer de compenser justement la situation stressante par un investissement attentionnel plus important, et puis d'autres peut-être un peu moins et du coup plutôt tolérer une diminution des performances. Et là on a mis en avant l'effet de l'estime de soi, donc c'est notamment une variable que Célia a réutilisée pour un autre projet, le projet des estimes. Et en fait on s'est aperçu que l'estime de soi, donc c'est plutôt la façon dont l'élève va percevoir sa compétence à l'école. Et ben, on s'est aperçu que cet élément-là était fortement lié à un maintien de bonnes performances en situation stressante. Donc les élèves qui se sentent plutôt compétents à l'école sont ceux qui vont essayer d'investir plus d'attention en situation stressante pour obtenir des bons résultats, maintenir donc ce sentiment de compétence. Donc il y a cet effet-là, et donc ce qui est intéressant, c'est de se dire finalement les élèves qui vont avoir une moins bonne estime de soi au niveau de leur compétence scolaire sont des élèves qui vont finalement se dire en situation stressante, je ne vais pas y arriver, c'est difficile. Donc finalement, laisser tomber l'effort qui pourrait leur permettre d'obtenir quand même de bonnes performances, et finalement entrer dans un espèce de cercle vicieux qui va faire que... Évidemment, du coup, les performances ne sont pas bonnes et ils se disent c'est normal, je ne suis pas bon. Et donc, on a comme ça aussi la question de l'échec scolaire qu'on voit apparaître tout doucement par ce biais-là.
Et alors, juste une chose, est-ce qu'on peut imaginer aussi que parmi ceux qui, disons, arrivent à se maintenir à flot dans une situation complexe, stressante, on se fait attaquer par la banderole faite de la science. Est-ce qu'on peut supposer aussi que dans le lot, il y a des étudiants, mais qui n'ont pas le choix, en fait? Et du coup, là, est-ce qu'on est peut-être dans un réflexe de survie, de se dire de toute façon, je ne peux pas refaire une année, c'est impossible pour moi de refaire des études, donc il faut absolument que je réussisse parce que je n'ai pas le choix?
Alors, cette question, elle est intéressante. En général, c'est surtout une source de stress supplémentaire. Donc c'est pas nécessairement très très positif que de voir la réussite sous ce biais-là. Alors effectivement, ça peut motiver, c'est-à-dire que ça peut motiver en amont, avant le jour de l'examen, ça peut motiver à des révisions très poussées, à mettre en place des stratégies de révision qui vont être efficaces, et du coup le jour J permettre l'obtention d'une bonne performance sur l'évaluation. En revanche, sur le jour de l'examen, ce qui est vraiment important, c'est de réussir à faire diminuer le stress suffisamment, en tout cas pour déployer assez d'attention sur la tâche qu'on est en train de faire, et donc à ne pas se laisser envahir. Donc à ce moment-là, si on a cette idée de faut pas que j'échoue, sinon ça va être compliqué, c'est ce que nous on appelle une rumination, en fait, du coup qui est une stratégie pas très adaptée, de garder en mémoire comme ça un élément qui va être finalement un élément perturbateur pour la tâche qu'on est en train de produire. Et donc en situation stressante, garder à l'esprit que l'échec est quelque chose de très négatif à éviter à tout prix, même si évidemment ça peut l'être, mais à ce moment-là, c'est un élément qui va être vraiment négatif pour la performance, beaucoup plus négatif. Donc il vaut mieux l'utiliser en amont en se disant on va mettre en place des stratégies de révision, d'apprentissage qui vont permettre à l'examen de se dire « Ok, j'ai bien travaillé, a priori, maintenant, je vais appuyer sur ce que j'ai réussi à faire, à réviser, à apprendre. »
Oui, donc si on veut résumer, synthétiser un petit peu cette information-là, finalement, on a toujours cette idée qu'il faut un minimum de stress pour pouvoir apprendre, pour pouvoir réussir dans une évaluation, mais pas trop non plus. Donc finalement, ce que tu exprimais très bien là, c'est il faut un minimum de stress, mais surtout avant, et savoir le gérer le plus possible pendant l'évaluation.
Donc c'est positif finalement toutes les choses qui se mettent en place autour de la gestion du stress parce que ça fleurit un peu partout et c'est vrai que des fois on peut être surpris, on peut se demander quelles sont toutes ces applications, voire musique, mood playlist et tout ça là pour se déstresser. Donc est-ce que ça peut vraiment avoir un effet intéressant tout ça d'après vous?
Bah, tout ça c'est très individuel en fait, il y a des choses de gestion du stress qui vont très très bien marcher, par exemple la relaxation être vraiment quelque chose de très efficace pour certains et pour d'autres ne pas du tout être adapté. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont avoir besoin d'évacuer le stress d'une façon différente. Le sport, à ce moment-là, peut être un très très bon moyen de réguler, de gérer ce stress-là. Et puis, une autre stratégie parfois pour certains, c'est finalement de changer les idées. Donc ça, c'est une stratégie de régulation des émotions également, qui va être de se dire, bah, en fait, à ce moment-là, je fais le choix d'orienter mon attention sur quelque chose de très... Alors, en amont, évidemment, de l'évaluation, hein, mais je fais le choix d'orienter mon attention sur quelque chose de très différent pendant un certain temps, histoire de faire retomber un petit peu la pression. Et une fois qu'il y aura ce sentiment un peu de bien-être qui sera revenu, on se remet au travail. Donc voilà, il y a plusieurs stratégies. Je pense que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on ne peut pas imposer une stratégie de régulation à tous et à toutes, et notamment de gestion du stress. C'est vraiment individuel, il faut amener les gens à apprendre à se connaître pour déterminer ce qui va fonctionner et ce qui fonctionnera peut-être pas, et dans ces cas-là, on le laissera tomber.
Oui, c'est d'autant plus vrai chez les enfants, hein. Ce qui va fonctionner pour l'un va pas forcément fonctionner pour l'autre, donc c'est vrai qu'au niveau des stratégies et des méthodes qu'on peut proposer, il faut le plus possible, même si avec les effectifs dans les classes, c'est pas forcément toujours évident, mais faut essayer d'adapter le plus possible à l'enfant lui-même.
Est-ce que vous voulez peut-être continuer sur des cas concrets, des exemples de travaux?
Ben, on a déjà évoqué pas mal de choses sur cette thématique-là. Après, on a le travail que tu avais mené, qui est déjà publié, donc on pourra transmettre si besoin, sur l'effet de l'induction d'un contexte émotionnel sur des performances de raisonnement d'enfants. Alors, je vais peut-être te laisser développer, parce que j'ai pas forcément aussi bien que toi les détails en tête.
Oui, du coup, j'en profite juste parce que c'est vrai que là, on a mentionné cette expérience qui portait sur le stress. Ça paraît un petit peu, peut-être un petit peu déstabilisant pour les élèves, pas très très adapté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne met pas en place n'importe quel élément stressant face aux élèves. C'est-à-dire qu'on va essayer de le contrôler au maximum dans les expériences qu'on va proposer. Il y a une question éthique, en fait, tout simplement là-dessous, qui fait que notre objectif à nous, c'est certainement pas de mettre à mal les personnes qui vont participer à nos expériences. Donc on va gérer au maximum les choses pour que finalement, à la fin de l'expérience, l'émotion qui domine soit une émotion positive face au travail. Donc on va revaloriser, on va dédramatiser également. Là, on mettait en place une situation stressante, donc chronométrée, pour laquelle on expliquait qu'on allait évaluer les performances de raisonnement. Enfin voilà, on avait mis en place tous les éléments qui constituent en fait une situation d'évaluation classique. Mais à la fin, on avait gardé un temps en fait d'une vingtaine de minutes de mémoire qui visait justement à repasser un extrait positif. Alors voilà, ça c'est des méthodes qu'on a développées en laboratoire et qui ont l'air de bien fonctionner. Donc on passe un extrait vidéo positif. Voilà, ça permet de se remettre dans une émotion un peu plus agréable. Et puis surtout, on garde toujours un temps d'échange avec les participants, voilà, pour essayer de faire le point avec eux et puis dédramatiser justement l'évaluation en leur expliquant bien que ça n'a aucune conséquence sur leur parcours scolaire et que l'objectif, il est que pour nous, que c'est nous qui sommes les plus intéressés par ces résultats et qu'on les remercie surtout. Donc voilà, je pense que c'est important de le souligner parce que sinon, je pense que ça peut faire un peu peur de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait à nos enfants? On ne fait rien d'important et surtout, on ne met en place des choses, qu'on ne met en place que des choses qu'ils vont être amenés à rencontrer dans leur scolarité. On n'a pas mis en place une situation complètement déconnectée. C'est une situation scolaire qui a été mise en place et c'était bien ça qui nous intéressait justement. Voilà, juste je voulais rappeler ça parce que...
Oui, tu fais bien, c'est vrai que... Et toutes les situations qu'on va proposer sont soumises avant d'être mises en place auprès des enfants à un comité d'éthique qui donne ou pas son accord pour la mise en place de l'expérience. Oui, tu fais bien de le préciser.
Alors peut-être justement, on peut parler, pour parler un peu boutique, est-ce que vous voulez nous expliquer comment on construit un protocole de recherche comme celui-là? Donc il y a une idée de ben, on voudrait faire ça, donc comment on évalue combien d'enfants sont nécessaires, c'est pas le mot, mais combien de personnes doivent participer pour que ce soit pertinent, qu'est-ce qu'on va mesurer, comment, est-ce que vous voulez nous expliquer comment on fait ça?
Alors, bah oui, là, alors c'est pas du tout spécifique à cette recherche-là. Hein. C'est la démarche scientifique qu'on peut mettre en place dans n'importe quelle de nos recherches. Donc, on va être d'abord sur une recherche dans la littérature. Qu'est-ce qu'on sait déjà sur ce domaine-là? Donc, c'est vrai que les émotions, c'est un thème qui est quand même assez nouveau en psychologie. Comme tu le disais, ça a été longtemps considéré comme quelque chose de plutôt à mettre de côté pour pouvoir raisonner correctement, etc. Aujourd'hui, on les étudie beaucoup plus. Donc il y a déjà des choses, il y a toute une littérature plutôt chez l'adulte en fait, qui nous a servi beaucoup de base pour tout ce qu'on a commencé à mettre en place chez les enfants. Donc d'abord, toute cette revue de littérature pour formuler des hypothèses, comme dans toute expérience scientifique. Et puis, ce qui va être déterminant pour les effectifs dont on va avoir besoin, donc combien d'enfants on souhaite rencontrer, c'est finalement quelle méthodologie au niveau statistique on va utiliser. Est-ce que ce qui nous intéresse, c'est plutôt quelque chose de qualitatif, d'avoir un retour au niveau verbal de la part des enfants, de comment ils se sentent dans telle situation, comment ils vivent tel aspect dans les apprentissages, dans les évaluations par exemple. Donc là, on peut être sur des effectifs assez restreints, ou est-ce que on veut, comme ça a été le cas dans ce qu'on évoquait tout à l'heure, faire une comparaison de deux situations différentes. Donc un nombre suffisamment important d'enfants qui vont être mis en situation d'entraînement et un nombre suffisamment important d'enfants qui va être mis en situation d'évaluation pour qu'on puisse avoir une comparaison suffisamment robuste au niveau statistique. Si on est sur des effectifs trop restreints, on ne peut pas extrapoler par rapport aux résultats qui sont obtenus. On ne pourra pas réellement donner de conclusion, même si on n'a jamais une réponse fiable à 100%. Hein, c'est le propre un petit peu des statistiques. On a toujours une petite marge d'erreur, mais ça nous permet donc à l'avance de savoir, selon l'hypothèse qu'on pose, la méthode qu'on va utiliser, on a des logiciels qui nous permettent de savoir à peu près combien on doit rencontrer d'enfants, en fait.
Et alors là,
je sais pas si tu veux compléter.
À titre indicatif, combien d'enfants ont participé à ce projet-là?
Alors, je vais essayer de ne pas confondre. sur celui-là, on avait... Est-ce
que c'est une centaine, je crois.
Ah, ouais, je croyais que c'était ça, mais il y en avait 200 déjà.
Ouais, il me semble qu'il y avait une centaine d'élèves et une centaine d'adultes, parce qu'on a vu des étudiants aussi pour cette partie-là.
Ouais. Je suis désolée, du coup, c'est
entre 100 et 200.
Voilà. C'est une étude qui remonte à un petit peu, quelques années. Donc sur l'effectif, on devait être peut-être autour d'une centaine.
Ouais, au moins 100 personnes.
Juste d'élèves. Ouais.
Et est-ce que sur un type d'étude comme celui-là, on peut mettre en évidence, par exemple, parce que ça revient beaucoup en ce moment, de dire par exemple les enfants filles. Peut-être on met plus d'enjeux dans le fait de réussir, d'être un bon élève. Est-ce que ça, c'est des choses qui apparaissent dans de telles études?
Alors oui, nous, c'est des éléments qu'on a là sur lesquels on s'est intéressé. En fait, on n'a pas eu de différence entre les garçons et les filles sur les performances. L'indicateur qui jouait réellement, c'était la question d'estime de soi scolaire. C'était vraiment le facteur qui différenciait les performances bonnes en situation d'évaluation et moins bonnes. Et là, on n'a pas eu d'effet du genre, mais effectivement, dans la littérature, en général, il y a un effet du genre qui ressort sur déjà le stress ressenti et puis potentiellement sur les effets également sur les performances. Mais dans cette étude-là, nous, c'est pas ce qu'on a mis, on l'a pas mis en avant. On a observé, mais on n'a pas vu de différence particulière. En revanche, l'estime de soi avait une part beaucoup plus importante.
Et la même étude dans un pays anglo-saxon, par exemple ?
Alors, c'est une très bonne question sur laquelle je ne m'avancerai qu'à tout petit pas, puisque je ne sais pas avec précision.
Oui, c'est pas notre spécialité, mais c'est pas une... À mon avis, il n'y aurait pas une énorme différence. On n'est pas sur des propositions en termes d'apprentissage, d'évaluation qui sont très très différentes.
Je suis pas sûre qu'on ait des résultats très différents. Maintenant, c'est vrai qu'en fonction des particularités des systèmes éducatifs, la question juste de l'estime de soi, du sentiment de compétence qu'on a, peut varier. Mais alors là, j'ai pas suffisamment d'éléments pour répondre avec certitude. À première vue, je ne suis pas sûre non plus, mais ça serait à vérifier.
On va faire un appel à des chercheurs et chercheuses qui travaillent sur des sujets similaires dans ces pays pour qu'ils nous disent.
Pour compléter, mais ça a dû être fait. Après, nous, ce n'est pas notre spécialité du tout, mais oui, c'est possible que ça ait été déjà fait.
Peut-être que la salle a des questions. Ah.
Oui, au moins une.
Une petite pause musicale, le temps que je bouge jusqu'à madame.
Je voulais savoir, puisqu'on parle d'estime de soi, est-ce que l'estime de soi donc des enfants est en relation avec le niveau social ?
Pas forcément directement l'estime de soi. Après, ce qui va pouvoir jouer et ce sur quoi on est en train de travailler, mais là j'ai pas encore tous les résultats sur le projet sur le décrochage scolaire, c'est plus sur le sentiment de dévaluation parfois par les enseignants qui peut être ressenti ou pas par certains élèves. Là, il peut y avoir parfois un lien avec le niveau social des familles, mais ça peut être tout à fait compensé par d'autres facteurs. Et au niveau de l'estime de soi, ça se ressent pas forcément au final. Et là, il y a beaucoup aussi de travaux qui montrent que les enseignants sont de plus en plus formés et vont de plus en plus vers la prise en compte de ces éléments pour favoriser une bonne estime de soi des élèves, de bons apprentissages. Et sur l'estime de soi, après, il y a d'autres éléments qui vont faire que on avait pris en compte aussi l'estime de soi sociale, l'estime de soi, alors moins d'autres facettes de l'estime de soi physique, etc., mais plutôt l'estime de soi générale qui n'est pas que la somme de toutes les autres dimensions de l'estime de soi. Et là aussi, on voit qu'il n'y a pas forcément des estimes de soi beaucoup plus faibles ou même plus faibles tout court chez ces populations-là.
Oui, peut-être justement ce qu'il faut préciser, parce que c'est peut-être pas intuitif, mais c'est qu'on n'a pas une estime de soi, on a plusieurs estimes de soi qui vont dépendre en fait du domaine qui est concerné. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, l'estime de soi scolaire, elle est très propre à l'école, elle dépend vraiment des performances et de l'importance qu'on accorde à l'école. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une très mauvaise estime de soi scolaire et en même temps avoir une estime de soi générale très bonne parce que vous accordez très peu de place à l'école et donc ça n'impacte pas du tout votre estime de soi générale. De la même façon, vos relations aux autres, la relation aux autres va constituer une sphère d'estime de soi. Et donc si vous avez de très bonnes relations avec les autres et que c'est très important pour vous, eh ben, ça va valoriser votre estime de soi générale. Mais finalement, si ce n'est pas important pour vous et que c'est positif, bah, tant mieux. Mais si c'est négatif, ça impactera très peu. Donc c'est pour ça que quand on parle d'estime de soi, nous, on va souvent vers des concepts très spécifiques. On va prendre soit l'estime de soi sociale, soit scolaire. dans nos cas, en général, c'est plutôt celle-ci qui nous intéresse. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce n'est pas quelque chose de figé. Ça va être également dépendant des relations entre l'enfant et l'environnement, et là, l'environnement de l'école. Donc, plus il aura d'expériences positives, plus l'estime de soi scolaire va être positive également, et elle va favoriser l'investissement dans les tâches scolaires. À l'inverse, un élève qui avait plutôt une bonne estime de soi scolaire et qui va se retrouver mis en échec de façon très répétée et surtout dévalorisé, va être un élève qui va petit à petit voir baisser son estime de soi scolaire, et si c'est un domaine important pour lui, voir baisser son estime de soi générale. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être travaillé, et les enseignants effectivement s'appellent énormément à essayer d'être sur ce travail également, parce qu'on s'aperçoit du rôle important que ça a sur l'investissement à l'école et dans la vie quotidienne.
Et justement, vous parliez de l'environnement scolaire, etc. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, sur plusieurs études, vu une différence générationnelle aussi sur l'estime de soi scolaire ?
Non. Alors, pour l'instant, l'étude, elle portait sur une période de 3 ans. Donc, on n'a pas du tout de différence à ce niveau-là. En revanche, c'est quelque chose qui est complètement possible puisque le système scolaire évolue. Et justement, le travail des enseignants va être modifié en fonction de ce qui est dans les programmes aussi et qu'aujourd'hui, c'est inclus. Donc, potentiellement, l'estime de soi aujourd'hui des élèves va pouvoir être différente de ce qu'elle était, il y a quelques années. Mais là, pour le coup, moi, j'ai vraiment pas du tout de résultat là-dessus. Qui permettrait de valider cet élément-là.
Nous, directement, on n'a pas travaillé sur cette question-là au niveau temporel. Par contre, c'est vrai qu'on peut, au niveau qualitatif, voir quand on discute avec les enfants aujourd'hui, avec les élèves notamment, voir qu'il y a probablement un effet bénéfique, mais qui reste à prouver scientifiquement qu'il a peut-être été, commence à l'être peut-être par d'autres collègues, par rapport aux modifications des évaluations. Le fait qu'on soit passé sur des codes couleurs ou des éléments comme acquis, non acquis, etc., plutôt que des notes chiffrées qui avaient quand même un impact peut-être plus important sur ces notions d'estime de soi. Nous, on n'a pas pour l'instant travaillé sur ces questions-là, mais ça serait effectivement très intéressant de se pencher sur cette évolution en parallèle de cette évolution des évaluations.
Vous parliez tout à l'heure par rapport au stress que vous aviez remarqué, soit une diminution, soit un maintien des performances. Je me demandais si vous n'avez pas eu des cas d'augmentation des performances, puisqu'on sait que le stress est aussi là pour augmenter l'attention. Donc est-ce qu'il peut y avoir un stress modéré qui peut être bénéfique dans ces cas-là ?
Oui, effectivement, un stress modéré va plutôt avoir tendance, voire à booster même effectivement un petit peu les performances. De façon générale, dans la littérature, ce qu'on observe le plus souvent, c'est plutôt une diminution ou un maintien, parce qu'en fait, quand on compare les performances antérieures avec les performances sous stress, même si elles sont un petit peu supérieures, des fois c'est pas suffisamment important pour qu'on se dise il y a eu vraiment une augmentation. Mais il y a quelques études qui montrent une augmentation effectivement sous situation stressante, et c'est bien ce qui nous avait interrogé au départ, c'est de se dire mais qu'est-ce qui fait que finalement on n'ait pas un résultat uniforme? Est-ce que c'est juste le niveau de stress? Dans ces cas-là, il faudrait trouver comment induire un stress très modéré. Là encore, c'est compliqué parce que c'est très individuel. On ne va pas ressentir le même niveau de stress tous face à la même situation. Donc ça complique énormément. Mais voilà, nous, la question était là-dessous, c'est pourquoi on n'a pas des résultats très, très, très linéaires, très clairs là-dessus. Mais effectivement, on peut avoir en fait un peu les trois cas. Et nous, l'hypothèse, c'était qu'il y avait un lien avec cette question d'estime de soi.
Puis il y a l'aspect développemental aussi qui est important. Les enfants ne vont pas forcément gérer aussi bien le stress que les adolescents et eux-mêmes aussi bien que les adultes. Donc ce qui peut expliquer aussi les différences, c'est que ce qu'on évoquait tout à l'heure en termes de régulation émotionnelle, ça se construit au fur et à mesure du développement. Et les enfants, ils commencent à le construire très tôt, mais il faut vraiment adapter les situations d'évaluation pour que le stress soit suffisant pour les impliquer, mais ne dépasse pas leurs compétences de régulation émotionnelle.
Oui, et juste pour compléter ça, c'est vrai que j'ai pas mentionné du coup la deuxième partie de l'expérience qui était effectivement auprès d'étudiants. Et ce qui était intéressant, c'est que alors chez les élèves, on pouvait observer cette diminution ou un maintien. En revanche, on a fait la même expérimentation auprès d'étudiants. Et là, on a observé pour tous les groupes un maintien des performances. Donc on a cette question de régulation des émotions qui s'est très très bien mise en place. Là, potentiellement, on était avec un stress qui était assez modéré pour eux dans les réponses en tout cas. Et on voit bien que ça n'avait pas du tout d'impact. Même pour les étudiants qui ressentaient un stress un peu plus important, les performances n'étaient pas du tout impactées par la situation. Donc on a effectivement la question de régulation des émotions en sous-face.
Sous-jacente.
Voilà.
Ne pensez-vous pas qu'à l'heure actuelle, avec le développement des réseaux sociaux, en revenant à l'estime de soi, l'estime de soi relationnelle prenne le pas chez les jeunes sur l'estime de soi, école, etc., et ne devienne quand même un peu, je vais dire, dangereux, quoi.
Oui, tout à fait. Alors, on a des collègues qui travaillent directement sur cette question-là actuellement, sur un projet de recherche sur justement l'influence psychologique des réseaux sociaux et des. Eux, ils travaillent sur les idéaux qui sont très variables, parce qu'en plus, les jeunes aujourd'hui sont confrontés à des sortes de modèles, mais qui sont très changeants. Il y a des effets de mode, en fait. Hein. Et effectivement, parfois, ça peut prendre le pas, alors pas forcément complètement, là aussi ça va dépendre des élèves et des jeunes. Ce qui va être peut-être, alors moi je travaille pas directement sur les réseaux sociaux, mais par contre sur un aspect que j'ai pu observer directement, ce qui peut être déterminant pour maintenir un engagement suffisant par rapport au milieu scolaire, c'est l'importance que vont accorder les parents et notamment les pères. Alors là, pour le coup, il y a des résultats qui commencent à montrer des différences. Non pas que la vie de la maman soit inintéressant pour les enfants, mais probablement qu'il y a un minimum d'implication dans les élèves qui avaient été rencontrés chez les mamans, et que la différence, elle se faisait peut-être plus au niveau des papas, qui étaient plus ou moins pas impliqués, mais qui manifestaient auprès de leurs enfants plus ou moins d'importance par rapport à l'école. Leur exprimaient plus ou moins, et plus le père exprimait une importance qu'il accordait à l'école, au fait qu'il y a un engagement de la part de son enfant vis-à-vis du système scolaire, plus ça avait des effets bénéfiques sur l'engagement de l'enfant lui-même. Donc je ne sais pas, aujourd'hui on n'a pas de lien entre les deux, mais moi ça m'évoque le fait que oui, il y a des effets, effectivement ça on le sait, hein, d'un côté des réseaux sociaux, ça peut avoir des influences négatives et entraîner parfois des désengagements par rapport au système scolaire, focaliser l'intérêt de l'enfant sur d'autres aspects, mais il y a aussi, par ailleurs, on le sait, donc des liens seraient probablement à faire dans le futur, d'autres facteurs qui peuvent influencer l'enfant et heureusement, et on peut éventuellement imaginer travailler sur ces aspects-là.
Oui, et peut-être juste pour compléter, oui. L'école occupe toujours une très grande place pour les élèves. Outre le fait qu'ils y passent quand même une très grande partie de leur journée et de leur temps de façon générale, ça reste un facteur de stress important pour eux et une très forte pression, en tout cas, sur leurs épaules. Et bien souvent, ce qu'on peut observer aussi dans les études, c'est que finalement, le désengagement scolaire va entraîner un réinvestissement dans d'autres types d'activités, notamment les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est souvent des échecs répétés à l'école qui vont faire que l'élève va essayer de se valoriser, donc pour maintenir une estime de soi positive, va essayer de se valoriser sur d'autres activités. Et là, effectivement, les réseaux sociaux occupent aujourd'hui une place très très importante.
Bonjour.
Bonjour.
Du coup, vous parliez tout à l'heure donc de réguler les émotions, ce qui veut dire apprendre à les gérer. Est-ce que ça ne serait pas plus pertinent en fait d'apprendre à les comprendre, vu qu'une émotion est répétitive et donc nous transmet quand même un message?
La compréhension de ses propres émotions, la compréhension des émotions des autres, fait partie de cet apprentissage qui se fait de façon tout à fait naturel, j'allais dire, qui se fait de toute façon indépendamment de l'école, hein, généralement, alors sauf cas particuliers qu'on évoquait au début, mais on va avoir cette un des aspects de l'apprentissage de la régulation émotionnelle, vous avez tout à fait raison, c'est de comprendre les émotions. Oui, tout à fait.
Mais il ne faut pas non plus confondre. Hein. Quand on dit régulation des émotions, ça ne veut certainement pas dire que les émotions, on les voit comme quelque chose à éliminer. Très très loin de nous, cette idée. Au contraire, c'est juste qu'il y a des situations qui vont nécessiter une partie de régulation des émotions et que dans ces cas-là, on va disposer d'un panel d'outils et que l'objectif va être de le mobiliser. En revanche, ça ne veut certainement pas dire les faire taire. Au contraire, c'est vraiment pas le but de la régulation émotionnelle, c'est pas de faire taire l'émotion, c'est de se dire à ce moment-là, j'ai besoin de la réguler pour une raison ou une autre, parce que la situation est très stressante, parce que je suis dans une situation triste et du coup, bah, c'est pas le moment pour moi de rire, même si on me raconte une très bonne blague. Et donc, toutes ces situations sont des situations qui nécessitent de réguler les émotions, mais c'est pas du tout contradictoire avec le fait qu'il faut les prendre en compte et essayer de les comprendre malgré tout.
Bon.
Alors, par rapport aux végétaux, il me semble que oui. En revanche, chez les animaux, on perçoit aussi des émotions. Oui, tout à fait. Alors, je ne suis pas spécialiste de la question. Il me semble qu'il y a eu une autre conférence là-dessus. Donc, vous pourrez réécouter le podcast pour des informations plus précises. Mais en tout cas, ce n'est pas une spécificité. Alors, exactement. À l'heure actuelle, ouais. Il me semble que chez le monde végétal, on n'a pas trop d'informations. On entend parfois... voilà, c'est ça. Enfin, il y a des petites blagues sur le monde végétal. Mais... en tout cas, chez les animaux, on a déjà des informations sur le fonctionnement d'émotions également, qui sont perçues évidemment différemment. Elles ne s'expriment pas de la même façon.
Cela dit, il y a un livre qui s'appelle « Les émotions cachées des plantes », je crois, « Les émotions secrètes des plantes » de Didier Van Kovelaert. Voilà, donc il y a un livre là-dessus. Et il y a aussi, je crois, dans la salle des mariages, des chercheurs INRAE. Alors peut-être qu'il y a des spécialistes des plantes. Là, peut-être vous pouvez leur poser la question. Ouais. Bien, merci beaucoup, mesdames.
Ah, il y avait une dernière question, je crois. Mais...
Excusez-moi.
Je me demandais par rapport aux enfants, par rapport à leur gestion du stress, par rapport à leur connaissance d'eux-mêmes, en fait, quels sont les moyens à leur disposition pour se comprendre mieux, pour mieux gérer leurs émotions et éviter que le stress, le manque de confiance en soi puisse être un frein dans leur parcours scolaire.
Bah, c'est ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure. Hein. Ça se construit vraiment dès le plus jeune âge. Au départ, cette régulation émotionnelle, elle est un système de co-régulation. L'enfant est incapable de le faire seul. Il va avoir vraiment besoin de ce qu'on appelle un co-régulateur. Souvent, c'est les parents, mais ça peut bien sûr être une autre personne. Et c'est sur cette base-là que va se construire... donc, la possibilité plus tard de réguler soi-même, seul. Donc, plus l'enfant va avoir de possibilités, de situations de co-régulation, plus il va pouvoir avoir des modèles aussi. Hein. Là, on passe vraiment par des propositions de modèles de la part des proches, de voir comment autour de lui, les autres régulent ses émotions que lui aussi ressent. Il va alors pas forcément copier exactement, on va tous construire sa propre stratégie de régulation émotionnelle qui va être variable de façon assez quand même fine selon la situation, selon les périodes de vie aussi. On peut avoir aussi des changements pour soi-même hein, de nos façons de réguler certaines émotions. Mais ça se construit vraiment grâce aux autres en fait. Là on a ce besoin de s'appuyer sur notre environnement familial, social pour construire ça. Et on peut le favoriser effectivement à l'école en proposant des situations d'interaction avec les autres enfants, le fait de correctement former les enseignants par rapport à la prise en compte du contexte émotionnel, les propositions de petites stratégies justement aux élèves pour mieux gérer tout ça. Le fait de faire évoluer les systèmes d'évaluation va favoriser tout ça aussi.
D'accord, mais justement, je me demandais s'il n'y en avait pas d'autres, par exemple, des psychologues ou d'autres spécialistes en cas de vrais problèmes de l'enfant.
Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Quand il y a des difficultés qui viennent d'un trouble du développement, d'un handicap, d'un déficit qui vient perturber ce développement de la régulation émotionnelle, ça peut être le cas hein, tout à fait dans différentes situations. Oui, il y a des propositions qui peuvent être faites. Alors, ça va passer par un suivi psychologique, évidemment. Et puis, il y a quelques situations qui peuvent être construite, proposée, adaptée vraiment à l'enfant en particulier. Donc on peut en quelque sorte, alors c'est peut-être un raccourci important, mais on peut proposer des entraînements à différents aspects du développement qui peuvent faire défaut comme ça à certains enfants. Tout à fait.
Merci.
De rien.
Est-ce la question de la fin? Je pense que oui. Eh bien... Merci beaucoup, mesdames, en tout cas.
Merci à vous.
Merci à vous.
Merci au public aussi, venu assister à cet échange et à poser plein de questions intéressantes. Donc, je rappelle évidemment que ce sera diffusé sur Radio Campus Tours la semaine prochaine et écoutable en podcast à volonté.
Merci à tous. Okay.